L'encyclopédie, Boucher d'Argis, article, révélation. Révélation, en général, c'est l'acte de révéler ou de rendre publique une chose qui auparavant était secrète et inconnue. Ce mot vient du latin revello, formé de re et de velum, voile, comme qui dirait tirer le voile ou le rideau, qui cachait une chose pour la manifester et l'exposer aux yeux. On se sert particulièrement de ce mot « révélation » pour exprimer les choses que Dieu a découvertes à ses envoyés et à ses prophètes et que ceux-ci ont révélées au monde. On l'emploie encore dans un sens plus particulier pour signifier les choses que Dieu a manifestées au monde par la bouche de ses prophètes sur certains points de spéculation et de morale, que la raison naturelle n'enseigne pas ou qu'elle n'aurait pu découvrir par ses propres forces. Et c'est en ce sens que la révélation est l'objet et le fondement de la foi. La religion se divise en religion naturelle et en religion révélée. La révélation, considérée par rapport à la véritable religion, se divise en révélation juive et révélation chrétienne. La révélation juive a été faite à Moïse, aux prophètes et aux autres écrivains sacrés dans l'Ancien Testament. La révélation chrétienne a été faite par Jésus-Christ à ses apôtres dans le Nouveau Testament. Un auteur moderne a cru proposer une difficulté solide en remarquant que les révélations sont toujours fondées sur des révélations antérieures. Ainsi, dit-il, la mission de Moïse suppose une première révélation faite à Abraham. La mission de Jésus-Christ suppose celle de Moïse. La prétendue mission de Mahomet suppose celle de Jésus-Christ. La mission de Zoroastre aux Perses suppose la religion des mages, etc. Mais outre que cette dernière allégation est une pure ignorance, puisque Zoroastre passe constamment pour l'instituteur de la religion des mages, et qu'on ne peut sans impiété faire un parallèle de deux imposteurs tels que Zoroastre et Mahomet, avec deux législateurs aussi divins que Moïse et Jésus-Christ, on ne voit pas pourquoi la mission de Jésus-Christ ne supposerait pas celle de Moïse, pourquoi celle-ci ne supposerait pas une révélation faite à Abraham. Y a-t-il de l'absurdité en ce que Dieu manifeste par degrés aux hommes les vérités qu'il leur juge nécessaires ? Est-il indigne de sa sagesse et de sa bonté qu'il leur fasse des promesses dans un temps et qu'il se réserve d'autres moments pour les accomplir ? Toute révélation, généralement, est fondée sur ce que Dieu veut que l'homme connaisse de ce qui le concerne plus particulièrement, comme la nature de Dieu et ses mystères, la dispensation de ses grâces, etc., objets auxquels les facultés naturelles qu'il a plu à Dieu de donner à l'homme ne peuvent atteindre par leur propre force. Elle a aussi pour but d'exiger de la part de l'homme un culte plus particulier que celui qu'il rend à Dieu à titre de créateur et de conservateur, et de lui prescrire les lois et les cérémonies de ce culte, afin qu'il soit agréable aux yeux de la divinité. Les révélations particulières ont leur dessein et leur but caractéristique. Ainsi, celles de Moïse et des prophètes de l'ancienne loi, regardez particulièrement les Israélites, considérés comme descendants d'Abraham. Le dessein de ces révélations semble avoir été de retirer ce peuple de son esclavage, de lui donner un nouveau pays, de nouvelles lois, de nouvelles coutumes, de fixer son culte, de lui faire affronter hardiment toutes sortes de dangers et braver tous ses ennemis, en lui imprimant fortement dans l'esprit qu'il était protégé et gouverné directement par la divinité même, de l'empêcher de se mêler par des alliances avec les peuples voisins, sur l'opinion qu'il était un peuple saint, privilégié, chéri de Dieu, et que le Messie devait naître au milieu de lui. Enfin, de lui laisser une idée de rétablissement, au cas qu'il vint à être opprimé, par l'attente d'un libérateur. C'est à quelques-unes de ces fins que toutes les prophéties de l'Ancien Testament semblent tendre. Mais ajoutons qu'elles eussent été insuffisantes pour captiver un peuple aussi opiniâtre que les Hébreux, si ces révélations n'eussent été soutenues par des caractères véritablement divins, le miracle et la prophétie. La révélation chrétienne est fondée sur une partie de celle des Juifs. Le Messie est prédit et promis chez ces derniers. Il est manifesté et accordé chez les chrétiens. Tout le reste des révélations qui regardent directement le peuple juif n'a plus lieu dans la loi nouvelle, à l'exception de ce qui concerne la morale. Ne nous servons d'ailleurs que de la partie de cette ancienne révélation qui regarde le monde en général et dans laquelle il est parlé de la venue du Messie. Les Juifs s'attribuaient directement l'accomplissement de cette partie de leur révélation, pensant en être plus particulièrement les objets que le reste du monde, que c'était à eux exclusivement que le Messie était promis, qui devait être leur libérateur et le restaurateur de leur nation. Mais une nouvelle révélation est substituée à l'ancienne. Tout change de face. Cette partie de l'ancien était, comme il est démontré, toute allégorique et toute symbolique. Les prophéties qui avaient rapport ne devaient point être à la lettre. Elles présentaient un sens charnel et grossier. Elles en cachaient un autre, spirituel et sublime. Le Messie ne devait pas être le restaurateur de la liberté et de la puissance temporelle des Juifs, qui étaient alors sous la domination des Romains, mais il devait rétablir et délivrer le monde qui avait perdu toute justice et s'était rendu l'esclave du péché. Il devait prêcher la pénitence et la rémission des crimes, et à la fin souffrir la mort, afin que tous ceux qui croiraient en lui fussent délivrés de l'esclavage de la mort et du péché, et qu'ils obtinssent la vie éternelle qu'il était venu leur acquérir par son sang. Telle a été la teneur et le dessein de la révélation chrétienne, dont l'événement a été si différent et si éloigné de celui que se figurait le peuple auquel le Messie avait été promis en premier lieu. En sorte qu'au lieu de rétablir et de confirmer les autres branches de leur révélation, elle les a au contraire détruites et renversées. L'avantage d'être enfant d'Abraham a cessé d'en être un particulier et propre aux Juifs. Tous les peuples de l'univers, sans distinction de Juifs ni de gentils, de Grecs ni de barbares, ayant été invités à jouir du même privilège, et les Juifs, refusant de reconnaître le Messie qui leur avait été promis, comme incapable de voir que toutes les prophéties se trouvaient accomplies en lui et que ces prophéties n'avaient qu'un sens allégorique et représentatif, ont été exclus des avantages de cette mission qui les regardait particulièrement. Et leur distraction totale est venue de la même cause d'où ils attendaient leur rédemption. Mais ce qui ne saurait se dissimuler, c'est que cette opiniâtreté même a rejeté le Messie, et cet aveuglement de leur part à interpréter les prophéties qu'il concerne que dans un sens littéral et charnel, et enfin leur ruine et leur dispersion ont été prédites. L'accomplissement de ces trois points devrait leur ouvrir les yeux sur le reste. C'est une preuve subsistante de la religion et de la vérité de la révélation, attestée d'ailleurs suffisamment dans la loi nouvelle comme dans l'ancienne, par les miracles et les prophéties de Jésus-Christ et de ses apôtres. Ce double tableau suffit pour sentir l'utilité et la nécessité de la révélation et pour voir d'un même coup d'œil l'enchaînement qui règne entre la révélation qui fait le fondement de la loi de Moïse et celle qui sert de base à la religion de Jésus-Christ. Un auteur moderne qui a écrit sur la religion définit la révélation, la connaissance de quelques doctrines que Dieu donne immédiatement et par lui-même à quelques-unes de ses créatures pour la communiquer aux autres de sa part et pour les instruire. Il ajoute que le terme révélation, pris à la rigueur, suppose dans celui qui la reçoit une ignorance absolue de ce qui en est l'objet, mais que, dans un sens moins restreint, et plus étendu, il signifie la manifestation d'un point de doctrine, soit qu'on l'ignore, soit qu'on le connaisse parfaitement, soit qu'il soit simplement obscurci par les passions des hommes. Si la révélation a pour objet un point entièrement inconnu, elle retient le nom de révélation. Et si au contraire elle a pour objet un point connu ou obscurci, elle prend celui d'inspiration. Après avoir démontré la nécessité de la révélation par des raisons que nous avons rapportées en substance, et que le lecteur peut voir sous le mot « religion », il trace ainsi les caractères que doit avoir la révélation pour qu'on puisse en reconnaître la divinité. Nous ne donnerons ici que le précis de ce qu'il traite et prouve d'une manière fort étendue. Toute révélation, dit-il, peut être considérée sous trois différents rapports, ou en elle-même et dans son objet, ou dans sa promulgation, ou dans ceux qui la publient et qui en instruisent les autres. Premièrement, pour qu'une révélation considérée en elle-même et dans son objet soit marquée au sceau de la divinité, il faut, premièrement, que ce qu'elle enseigne ne soit point opposé aux notions claires et évidentes de la lumière naturelle. Dieu est la source de la raison aussi bien que de la révélation. Il est par conséquent impossible que la révélation propose comme vrai ce que la raison démontre être faux. Deuxièmement, une révélation vraiment divine ne peut être contraire à elle-même. Il est absolument impossible qu'elle enseigne comme vérité dans un endroit ce qu'elle produit comme un mensonge dans un autre. Dieu, qu'on en suppose être l'auteur et le principe, ne peut jamais se démentir. Troisièmement, une vraie révélation doit perfectionner les connaissances de la lumière naturelle, surtout ce qui regarde les vérités de la religion, et leur donner une consistance inébranlable. Parce que la révélation suppose l'obscurcissement ou des erreurs dans l'esprit humain qu'elle doit dissiper. Quatrièmement, elle ne doit être reçue comme émanée dans Dieu qu'autant qu'elle prescrit des pratiques capables de rendre l'homme meilleur et de le rendre maître de ses passions. Le Créateur étant par sa nature incapable d'autoriser une doctrine licencieuse. Et cinquièmement, toute révélation pour prouver la doctrine qu'elle propose à croire doit être claire et précise. C'est par bonté et par miséricorde que Dieu se détermine à instruire par lui-même ses créatures des vérités qu'elles doivent croire ou des obligations qu'elles ont à remplir. Il est donc nécessaire qu'il leur parle clairement. Deuxièmement, la révélation envisagée dans sa promulgation pour être reçue comme divine doit être accompagnée de trois caractères. Premièrement, il est nécessaire que la promulgation en soit publique et solennelle, parce que personne n'est tenu de se soumettre à des instructions qu'il ne connaît pas. Deuxièmement, cette promulgation doit être revêtue de marques extérieures qui fassent connaître que c'est Dieu qui parle par la bouche de celui qui se dit inspiré. Sans cela, on prendrait pour des oracles divins les discours du premier fanatique. Troisièmement, la prophétie et les miracles faits en confirmation d'une doctrine annoncée de la part de Dieu sont ces marques extérieures qui doivent accompagner la promulgation de la révélation et conséquemment en démontrer la divinité. Parce que Dieu ne confiera jamais ces marques éclatantes de sa science et de l'avenir et de son pouvoir sur toute la nature à un imposteur pour entraîner les hommes dans le faux. Troisièmement, les caractères de la révélation, considérés dans ceux qui la publient et qui en instruisent les autres, peuvent être envisagés sous deux faces, comme les signes auxquels un homme peut connaître s'il est inspiré de Dieu, ou les marques auxquelles les autres peuvent reconnaître si un homme qui se dit envoyé de Dieu est réellement revêtu de cette qualité. Quant au premier moyen, premièrement, les merveilles à opérer en confirmation de la divinité de la mission qu'on croit recevoir. Deuxièmement, des prédictions faites pour en constater la vérité et qu'il voit s'accomplir. Troisièmement, le pouvoir qu'il reçoit lui-même de faire des miracles ou de prédire l'avenir pouvoir confirmer par des effets dans l'un ou l'autre genre. Quatrièmement, l'humilité, le désintéressement, la profession de la sainte doctrine. Toutes ces choses réunies sont des motifs suffisants à un homme qui les éprouve pour se croire inspiré de Dieu. Quant au second moyen, si le prophète a des mœurs saintes et réglées, s'il annonce une doctrine pure, si pour la confirmer il prédit l'avenir et que ses prédictions soient vérifiées par l'événement, s'il doit à cela le don des miracles, les autres hommes à ses traits doivent le reconnaître pour l'envoyé de Dieu et ses paroles pour autant de révélations. Le mot de révélation se prend en divers sens dans l'Écriture. Premièrement, pour la manifestation des choses que Dieu découvre aux hommes d'une manière surnaturelle, soit en songe, en vision ou en extase. C'est ainsi que saint Paul appelle les choses qui lui furent manifestées dans son ravissement au troisième ciel. Pour la manifestation de Jésus-Christ aux gentils et aux juifs, pour la manifestation de la gloire dont Dieu comblera ses élus au jugement dernier, et pour la déclaration de ses justes jugements dans la conduite qu'il tient envers les élus qu'envers les réprouvés.